De retour à l'émission Au gré du temps, en compagnie de Philippe Lapointe, qui a occupé les fonctions de vice-président à l'information. Je mentionne le titre de vice-présidence à l'information, mais vous avez occupé bien d'autres fonctions. Mais c'est celle qui, personnellement, m'a beaucoup marqué.
On l'a travaillé ensemble.
Mais vous avez, on parlait de JE avant la pause, vous avez aussi ouvert des voies. Je pense, par exemple, à la nomination de Sophie Thibault au bulletin national de 22 heures. Ça aussi, c'était un choix audacieux à l'époque. C'était la première femme qui occupait une telle fonction.
Oui, c'est drôle parce que les gens m'ont beaucoup... j'ai beaucoup été félicité pour ce choix-là. Et la vraie vérité, c'est que c'est pas un choix si audacieux. Parce que c'était tellement la meilleure personne. Je me suis pas dit, là, faut nommer une femme, on est rendu à nommer une femme. C'était elle qui devait y aller. Sophie était avec nous, c'est une bonne journaliste, c'est une superbe lectrice de nouvelles, présentatrice de nouvelles, chef d'antenne, qu'on l'appelle comme on veut. Fallait la nommer. T'sais, alors, c'était pas...
Mais vous avez récidivé ensuite, vous êtes passé... Radio-Canada. Et là, soudainement, vous mettez Pascal Nadeau au bulletin de 18 heures.
C'est arrivé à l'envers. Pascal Nadeau a été nommé
avant Sophie.
Okay. Mais ça, c'était, j'ai récidivé. C'est-à-dire que, encore là, Pascal, qui est encore là, qui fait un superbe job, tu sais. Sérieusement, j'ai été élevé par une mère, je sais pas si même pas si c'est féministe ou pré-féministe ou post-féministe compte tenu de sa génération, mais puis mon père était comme ça aussi, des parents qui sont totalement non sujets à ce genre de raisonnement-là. Alors, pour nous, je suis sûr que c'est vrai pour mon frère aussi, puis pour mes enfants, on pense pas dans ces termes-là. C'est vraiment familial, c'est profond. La meilleure personne. Et d'ailleurs, on s'est beaucoup amusé quand on a nommé Sophie à la conférence de presse. J'avais dit, je vous présente le meilleur homme pour la job. Ça avait été Sophie Thibault, c'est une blague, mais tu sais, bon, évidemment, je pense que c'est un beau compliment à faire à Sophie aussi, mais c'est la vérité. C'est vraiment c'était la meilleure personne.
Et actuellement, même aujourd'hui, le bulletin de Sophie Thibault est un bulletin fort écouté, comme celui de Pascal Nadeau qui occupe le créneau de fin de semaine
sûr,
de Radio-Canada.
Bien sûr, c'est pas, ça devrait pas jouer, on devrait pas se dire, moi-même ça me choque un peu qu'on dise encore, la première femme, ou il y a une femme qui fait ci, qu'on mette les meilleurs, puis des fois c'est une femme, des fois c'est un homme, tu sais.
Et c'est ce que vous avez fait.
Et des fois, c'est des gens... mais il y a des sous-représentations dans la société, il y a des injustices. Il n'y a pas assez de gens... Les gens en situation de handicap ne sont pas assez représentés. Les gens d'origine ethnique différente ne sont pas assez représentés. À l'antenne, actuellement, quand on regarde les antennes, c'est vrai pour TVA, c'est vrai pour Radio-Canada. Encore, c'était vrai quand j'étais là, malgré les efforts qu'on a faits, puis c'est encore vrai. Les gens des communautés ethniques ne sont pas assez représentés. Il y a beaucoup de groupes qui ne sont pas assez représentés. C'est trop blanc, trop canadien-français, trop pareil.
Alors, quand vous entendez, vous, tous les débats sur ce qu'on appelle le complexe identitaire, ça vient vous chercher?
Bien, c'est-à-dire qu'il y a un côté, inutile à ces débats-là. Tu sais, faut voir la réalité. La réalité, c'est que les... si on regarde l'Afrique, si on regarde l'Asie, si on regarde les pays émergents, comme on appelle les pays émergents, si on veut, la démographie est implacable. C'est-à-dire que là, le Québec vieillit, le Québec est blanc, le Québec d'aujourd'hui n'existe déjà plus. Alors, il faut s'y faire. Alors, moi, je suis de ceux qu'il faut protéger notre langue puis notre culture puis travailler, mais il faut intégrer les gens d'ailleurs. Sinon, on n'a aucune chance, on ne survivra pas nous-mêmes. Alors, c'est un débat inutile. Et puis, c'est tout le débat là sur l'identité, mais c'est un débat dangereux. Il faut faire attention. Alors, je pense
mais
que
c'est... Mais la clé, comme vous le dites, c'est peut-être justement l'intégration. Comment favoriser une meilleure intégration de toutes ces communautés qui nous arrivent et qui vont devoir s'adapter aussi à ce Québec qui est en mouvance.
Mais c'est sûr. Puis, il faut l'égalité des chances. Il faut lui donner un coup de main. Il faut donner un coup de main aux gens plus mal pris. En fait, dans une société riche comme la nôtre, parce qu'on se plaint beaucoup, mais on est une société extrêmement riche, il faut sortir un peu de notre monde, là, société très riche. Il faut s'ouvrir aux autres, puis il faut aider les plus démunis, et puis les gens qui sont plus mal pris. Alors, si on le fait pas, c'est de l'automutilation.
Ça arrive à manufacture, les deux yeux fermés, bien durs.
la claque. Ouais, ouais, gros, il faut donner si des pêches. Les deux pieds dans mes bottines, les mêmes pleins de pouces, les mêmes poches. Ça joue avec son petit change, toujours à côté quelque part. Ça parle, ça fume, ça mange la gomme, ça lâche, boy, yagri, yagri, yak. C'est que gagné hier au soir, nous sommes pas jamais le fuck. Le dos du forum avec, puis va s'écraser sa bande. Hanover Picnic dans le troisième. Ça zigonne, ça fuck le chien, maudit pas de molle.
Robert Charlevoix qui chantait Mon pays, ça poursuivait bien ce le contexte
Mon pays.
De ce propos. Dites-moi, Philippe, parce que à travers cette idée d'identité, on ressent beaucoup cette préoccupation que vous avez pour une justice, pour une plus grande justice sociale. Ça vous vient, ça, des valeurs transmises par vos parents?
Oui, absolument, c'est sûr. Mon père est un des fondateurs de Boscoville, qui est une des belles institutions québécoises qui a été fondée à cette époque-là.
Qu'est-ce que vous retenez, justement, de ce milieu familial dans lequel vous avez grandi?
Oui, on a été élevé, je vais parler pour mon frère aussi, mon frère et moi, dans un milieu complètement hors du commun, où, dans le fond, on n'avait pas nécessairement beaucoup de sous, mais d'une très, très grande richesse spirituelle, une très grande richesse aussi humaine, avec des gens, beaucoup de gens, d'artistes, des gens qui avaient de la vision, des gens qui pensaient différemment, plus à gauche forcément que la moyenne. Mes parents nous ont emmenés en Europe. On est allés au lycée quand on était des enfants. On est allés, on a fait le tour de l'Europe, à coucher dans des couvents. Tout ça vécu comme une aventure. Ma mère nous présentait le monde comme une belle aventure à vivre. Puis la voiture part pas, puis on couche dans un couvent, puis on n'a pas un sou, mais c'est une belle aventure. Puis on est chanceux, puis on a un beau destin, puis la vie est formidable. T'sais.
Donc une belle enfance.
Oui, merveilleuse, merveilleuse vraiment.
Et c'est peut-être ce qui vous a amené un jour à faire des études en philosophie.
Ben, je suis allé en philosophie, encore là, un peu à cause de mon père, parce que moi, je m'étais inscrit en droit. Parce que je me suis dit, il faut que je fasse un job sérieux. Puis il m'a dit, me semble, ça te ressemble pas. Pourquoi tu vas en droit? Mais je me disais, je sais pas, il faudrait bien que je fasse quelque chose de sérieux. Il m'a dit, ça t'inquiète, fais ce que. Écoute-toi un peu, fais quelque chose qui va.
Et vous étiez attiré par ces débats d'idées.
Moi, je pense que c'était à la recherche de sens.
De sens. La quête
comme,
de sens.
La quête de sens, comme beaucoup de gens. Quelqu'un avec qui j'ai fait mes études de philo, là, qui s'appelle Jean Gondin, qui a écrit un livre sur le sens, qui enseigne maintenant la philosophie. On cherche le sens. C'est quoi le sens de la vie, là? En quelque part, j'ai été élevé par des parents, je pense, qui... c'est pas nécessairement religieux, ça peut l'être pour certains, pour moi ça l'est moins, mais c'est le bien commun, essayer de faire en sorte que les gens qu'on croise dans nos vies, ben ils disent pas ils disent que fondamentalement c'est une bonne chose qui m'a connu, que essayer de faire un petit peu de bien, c'est ce qui va
rester de toute manière. Les relations que l'on aura nouées, c'est la seule chose qui nous reste au-delà du matériel.
Oui, parce que à un moment donné, devant la mort, on est tous égaux, là. On a beau être riche, on a beau être pauvre, mais à la fin, comment on disait ça, c'est un peu le vanité ou vanité, tout n'est que vanité.
Oui. Alors, avant de se retrouver jusqu'au fin mot de ce parcours terrestre, on peut peut-être aller faire un petit tour sur la rue principale.
Petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le casse-bord, la caisse pop, le croque-mort. Et le magasin général, quand j'y retourne, ça me faisait mal. Il est tombé une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. L'autre jour, j'ai amené ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais né. Aussitôt arrivé, me v'là un beau joie-le-vert. Ça avait l'air de Val-Jalbert. Quand j'y retourne, ça me faisait mal. Il est tombé une bombe sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Ouais! Une bonne journée, je y retournais avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Sur la grande rue, c'était plus vivant que ça. Des petits culs en baissette, des cousines en visite. C'était noir de monde comme en Afrique. Quand j'y retourne, c'est pathétique. Ça va tomber mal, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le McDonald's.
Voici Patrick Esposito di Napoli.
Ils sont plus rien que 3000, puis la rue principale est devenue bien tranquille. L'épicerie est partie, le cinéma aussi, et le motel est démoli. Quand j'y retourne, ça me faisait mal. Il est tombé une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Ouais! Une bonne journée, je y retournais avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer. On était juste 4000, puis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le casse-bord, la caisse-pop, le croque-mort. Et le magasin général, là, quand j'y retourne, ça me fait mal. Il est tombé une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat.
Ça m'étonne que vous ayez proposé les colocs.
Ben, en fait, c'est très personnel. André était le chanteur des colocs. et qui est décédé dans des circonstances tragiques qu'on connaît.
André Fortin.
André Fortin, oui, André Dédé. Dédé Fortin, oui, qu'on appelait André à l'époque. Je l'ai bien connu. Il était monteur aux nouvelles à Télémétropole à l'époque, quand moi j'étais jeune directeur des nouvelles. Et même chef de pupitre, là, il y a très longtemps, on parle des années 84, 5, 6, dans ces années-là.
Et il y avait un collègue, on peut mentionner son nom, Jules Brodeur, qui était un peu perçu comme étant mal léché, si vous me permettez l'expression. Mais le jour où on a appris le décès de Dédé Fortin, j'étais en compagnie de Jules Brodeur et j'ai vu cet homme pleurer, profondément bouleversé par la mort de Dédé Fortin.
Ben, André était, d'abord, c'était un très bon monteur, puis c'était quelqu'un de très attachant, extrêmement drôle. Moi, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé, puis je me rappelle que je le chicanais beaucoup parce que il manquait des fois un peu de discipline. Je me souviens d'être allé chercher dans le métro parce qu'il jouait de la guitare dans le métro, puis je disais, André, viens, c'est l'heure de travailler. Donc, c'était... Mais moi, je l'aimais beaucoup, puis on l'aimait tous beaucoup. Puis quand il a quitté pour aller faire son disque avec les colocs, moi, je ne savais pas qu'il faisait de la musique. Je savais qu'il réalisait. C'est un très grand talent, mais j'étais surpris moi-même quand j'ai vu les colocs débarquer cette musique-là. Waouh, c'est extraordinaire.
Profitons de ce moment, peut-être juste pour méditer, avec Georges Moustaki, Il y avait un jardin.
C'est une chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre l'acier et le bitume, entre le béton et l'asphalte. Et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer. Ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres. Avec un lit de mousse pour y faire l'amour. Et un petit ruisseau roulant sans une vague. Venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison toutes portes ouvertes? Que je cherche encore et que je ne trouve plus. La la la, la la la, la la la, la la la.
Philippe, on vient de parler de Dédé Fortin, on vient d'entendre Moustaki, puis on parlait de quête de sens. Tout ça, là, c'est dans le même magma. Là, hein. La quête de sens, on est tous dans cet esprit de vouloir trouver une raison véritable pour laquelle cette vie a une importance.
C'est le sens, on cherche le sens, tout le monde. Georges Moustaki, c'est tellement beau. C'est sûr que ça nous fait réfléchir sur le sens de la vie, la planète, l'environnement. Il y avait un jardin, c'était quelque chose de nostalgie prémonitoire, si on veut. Là.
Êtes-vous du genre optimiste ou pessimiste quand vous voyez, d'autant que vous êtes très sensibilisé à tout ce qui est secteur de l'information, donc vous connaissez bien l'actualité internationale. On voit des gestes qui sont posés actuellement un peu partout sur la planète. On parle de ces actes terroristes. La question du Moyen-Orient qui est loin d'être réglée. Quand vous voyez cela, est-ce que ça vous interpelle?
Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que ça interpelle. Il faut avoir un peu de perspective historique, cela dit. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 100 millions de morts, puis la première presque autant de morts aussi. Des tragédies dans l'histoire de l'humanité, là, c'est assez monnaie courante. Les Québécois que nous sommes, on a gagné la loterie. On est né dans le bon siècle, dans le bon endroit. L'endroit où il n'y a pas de guerre, puis l'endroit où c'est prospère, puis l'endroit où la météo est pas mal, même si on se plaint beaucoup l'hiver. Il n'y a personne au Québec qui est mort de faim. Ouais, il y a des drames humains et personnels, là, mais généralement, on a vraiment gagné le gros lot. Alors, il ne faut pas l'oublier. Sur la planète, il y a beaucoup de gens qui meurent de faim. Une immense misère. La condition humaine est très difficile partout. Alors, il faut garder un peu de perspective dans nos plaintes et dans nos craintes. Moi, je suis un optimiste réaliste. J'ai un optimisme, mais je suis un optimiste réaliste. Ce qui me choque, c'est le non-engagement. Tu sais, des gens qui disent, sont choqués contre, comme s'ils ne pouvaient rien faire, alors qu'on peut tous faire quelque chose. J'ai beaucoup aimé Obama pendant la campagne électorale qui disait aux gens, vous pouvez plaindre contre Trump, mais go and vote. À un moment donné, allez voter, puis impliquez-vous, puis engagez-vous. Alors, je suis optimiste, mais il faut que les gens s'engagent pour passer dans l'action.
Et cet engagement, est-ce que vous le sentez présent autour de vous?
Ben moi, j'ai la chance d'être dans un milieu, une famille, la femme avec qui je fais ma vie. Mes enfants sont très engagés, les deux socialement, très, très, très engagés. Je suis très fier d'eux. Mon père est un exemple d'engagement extraordinaire pour nous tous. Le père de ma femme aussi, Jean-Louis Roy, qui était un homme exceptionnel aussi, qui était un homme engagé. Son conjoint, bon, on est dans une famille de gens qui sont engagés généralement. Alors ça, moi, je suis très fier de ça. Mais sans engagement, pas de résultat. Et les choses n'arrivent pas tout seul. Alors oui, je suis un optimiste, mais si on ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge tout seul.
Qu'est-ce qui nous permettrait, avant de terminer, en quelques mots, de sortir de ce qu'on perçoit parfois comme une certaine forme d'apathie au Québec face à tous ces drames, face peut-être justement à ce manque d'engagement que certains évoquent par un simple bof?
C'est difficile à expliquer. C'est sûr qu'on est, d'une certaine manière des enfants gâtés. Et c'est sûr que l'abondance est un piège. Puis moi, je suis quelqu'un qui vit dans une abondance. J'ai bien gagné ma vie et tout. Mais je trouve que l'abondance est un piège. C'est provoqué une certaine apathie. Puis les Romains disaient ça dans le temps, du pain et des jeux. Mais c'est vrai qu'il y a un danger à ça. Il y a un danger à ça. Faut avoir du plaisir, il faut se distraire. Là. Moi, je ne suis pas une ascète. Mais faut aussi... faut essayer de changer le monde un peu, à quelque part.
Alors, on va tenter de changer encore le monde la semaine prochaine. On va vous réinviter à poursuivre cet entretien. Merci d'avoir été là. Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Vital Côté, Armand Dubois à la réalisation et l'animation, qui vous souhaite un beau parcours à notre antenne et revenez-nous la semaine prochaine avec la suite. Au plaisir. Thank you.
voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la pavita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Ataque, compay, ataque de frente.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Y Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.